Territoire d'info, l'actualité en français du Grand Nord canadien, avec Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste pour Média Ténois. Bienvenue à Territoire d'info, votre bulletin de nouvelles francophones pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Selon toute vraisemblance, les prochaines élections fédérales se tiendront le 20 septembre. Le député Michael McLeod aurait annoncé qu'il compte se présenter pour un troisième mandat. À une vingtaine de jours de la rentrée scolaire, le gouvernement présentait cette semaine son plan de retour à l'école. La loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest est en pleine révision. Les résidents et les organisations sont conviés à une série d'audiences publiques qui prend place à partir du 25 août. 5 collectivités des territoires du Nord-Ouest recevront dès cette année l'aide du programme Nutrition Nord pour diminuer le coût de leurs aliments et d'autres produits essentiels. Et finalement, Thomas Chabot nous parle de la fête nationale de l'Acadie qui a lieu ce dimanche. Selon toute vraisemblance, il y aura des élections fédérales le 20 septembre. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé qu'il se rendra à Rideau Hall pour demander à la gouverneure générale de dissoudre le Parlement dimanche prochain. Cette campagne électorale ne durerait ainsi que 36 jours, soit le minimum de jours prévus par la loi électorale. Le porte-parole du Parti libéral aurait confirmé au réseau CBC que le député des territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, compte se lancer dans la mêlée électorale pour un troisième mandat consécutif. M. McLeod a été élu pour la première fois lors des élections de 2015 avec 48,34% des votes. En 2019, il a obtenu 39,7% des votes. De son côté, le NPD a indiqué à Média Ténois que le nom de son candidat ou de sa candidate pourrait être dévoilé d'ici le dimanche 15 août. En date du 12 août, le Parti vert et le Parti conservateur ne s'étaient pas prononcés. Le premier ministre Trudeau, qui forme un gouvernement minoritaire depuis l'élection de 2019, devance donc de 2 ans la tenue des élections fédérales. Ne détenant pas la majorité absolue qui s'élève à 170 sièges, le Parti libéral compte sur la perception tirée des sondages politiques qui les place en avance, ce qui leur permettrait ainsi d'obtenir la majorité aux communes. La 43e législature compte 155 députés fédéraux et 119 conservateurs. Le Bloc québécois en compte 32 et le Nouveau Parti démocratique, 24. 2 députés verts et 5 indépendants siègent à l'Assemblée. À une vingtaine de jours de la rentrée scolaire, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest dévoilait le 11 août son plan de retour à l'école, qui a été élaboré en fonction des exigences de la santé publique. Si certaines mesures sont comparables à ce qui était imposé à la fin des classes, la santé publique a vu entre autres à simplifier la procédure à suivre pour les parents dont les enfants présentent des symptômes associés à la COVID-19, comme la toux ou un nez qui coule. Les élèves ne seront toujours pas autorisés à fréquenter l'établissement s'ils présentent des symptômes, tout comme le personnel de l'école. Toutefois, la santé publique a instauré un nouveau système de cartes, c'est-à-dire un document qui sera fourni par un professionnel de la santé et qui servira de preuve pour permettre aux jeunes d'accéder à l'école. Une mesure dont se réjouit le président de la Commission scolaire francophone des territoires du Nord-Ouest, Simon Cloutier.
Ça, c'est quand même un pas supplémentaire à ce qu'on avait l'année passée, puisque parfois c'était très, très difficile. Puis on comprenait aussi le désarroi des parents. Un enfant qui a le nez qui coule, malheureusement, ça arrive souvent pendant la période hivernale, mais comment on traite ça? C'était compliqué. C'était compliqué pour les familles, c'était compliqué pour nous. Là, maintenant, beaucoup plus de clarté. On va recevoir une carte, on a une carte, l'enfant peut venir à l'école, le problème est réglé, puis on passe à un autre appel.
Le port du masque sera toujours de mise, et ce, de l'entrée dans l'autobus jusqu'à l'arrivée aux aires communes de l'école. Les restrictions sont toutefois assouplies à l'intérieur des salles de classe. Les élèves de tous âges pourront y retirer leur masque et n'auront plus à respecter l'éloignement physique. L'éloignement physique demeure toutefois recommandé pour les élèves de la prématernelle à la 6e année. Les cours d'éducation physique pourront reprendre pour tous les élèves, en excluant toutefois les sports à fort contact, à moins qu'ils ne soient pratiqués à l'extérieur de l'école. La santé publique recommande aux écoles de donner des cours d'éducation physique à l'extérieur, lorsque possible, puisque les risques de transmission y sont diminués. Des restrictions s'appliquent toujours aux activités parascolaires. On interdit les cours de théâtre ou les productions théâtrales, tout comme le chant, les chorales, les programmes d'orchestre et le jeu d'instruments à vent, si pratiqués à l'intérieur de l'école. Les établissements scolaires devront toujours assurer un nettoyage rigoureux des surfaces et les mêmes restrictions entourant la distribution des repas et des collations, ainsi que le non-partage des fournitures scolaires, restent en vigueur. Un ensemble de mesures qui s'imposent toujours, selon M. Cloutier.
Il ne faut quand même pas oublier que les jeunes de moins de 12 ans ne sont pas encore vaccinés. Puis avec l'éclosion qui est arrivée à l'école Andrew McPherson l'an dernier, je pense que ça a permis à tout le monde de constater à quelle vitesse le virus peut se transmettre là, chez les gens non vaccinés. Donc, je pense que c'est des mesures qui sont quand même importantes à prendre pour protéger tout le monde, incluant les familles, les étudiants, mais aussi des membres de notre personnel.
Comme à l'été 2020, les établissements scolaires des territoires du Nord-Ouest ont dû soumettre un plan de rouverture à la santé publique. En ce qui concerne le directeur de l'école boréale de Hay River, Richard Letourneau, contrairement à l'été dernier, l'exercice se sera fait en toute simplicité. Contrairement à ce qui est observé dans certaines provinces, comme le Québec, la santé publique n'aurait pour l'instant émis aucune directive aux commissions scolaires en ce qui a trait au statut de vaccination des élèves. Comme l'explique Simon Cloutier, la commission scolaire francophone encouragera les parents à suivre les recommandations de la santé publique pour la vaccination de leurs enfants.
C'est des décisions familiales. C'est des décisions personnelles, donc nous on va respecter ça. Mais comme la santé publique là, suggère à tous les gens qui peuvent se faire vacciner puis qui ont la possibilité de se faire vacciner de le faire, c'est clair que nous on va publiciser ce message-là aussi puis on va encourager nos familles à faire vacciner leurs enfants.
Que devrait faire le gouvernement pour mieux promouvoir et protéger les 10 langues officielles minoritaires des territoires du Nord-Ouest? Les résidents auront l'occasion de répondre à la question du 25 août au 9 septembre lors d'une tournée d'audience publique qui se déplacera dans 6 collectivités. L'exercice se déroule dans le cadre de la révision de la loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest. Le comité en charge de cette révision, qui est constitué de députés de l'Assemblée législative, se déplacera à partir du 25 août à Yellowknife, à Hay River, dans la Première Nation Katlo-Dietche, à Fort Smith, à Fort Providence et à Deligné. Les résidents et organisations sont invités à venir partager leurs préoccupations et leurs suggestions. Ce processus de consultation mènera à la production d'un rapport qui sera présenté cet automne à l'Assemblée législative. Rapport qui contiendra des recommandations de modification à la loi. Révisée tous les 5 ans, la loi sur les langues officielles des TNO n'a subi aucune modification depuis 2004. La tendance est toutefois appelée à être rompue. En novembre 2020, lors d'une comparution devant le comité, le ministre responsable de la loi sur les langues officielles, R.J. Simpson, a présenté 3 recommandations visant à apporter des modifications administratives à la loi. Ceci laisse présager qu'un projet de loi pourrait être déposé par le gouvernement de Caroline Cochrane. La Fédération franco-ténoise a confirmé qu'elle prendra part aux audiences publiques du 25 août à Yellowknife et qu'elle déposera un mémoire au comité. L'organisation a retenu les services du consultant Baptiste Foisy, ancien chef de la salle de rédaction de Médias Ténois, pour élaborer les recommandations qu'elle compte soumettre au nom de ses membres. Selon M. Foisy, l'intention manifestée par le ministre d'apporter les premières modifications à la loi en 16 ans offrirait une ouverture à d'autres amendements. Bref, les audiences publiques entreprises par le comité de révision seraient susceptibles de mener à des résultats concrets.
Mais ce qui semble évident, c'est qu'il va en avoir un projet de loi parce que le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, lui, a des modifications qu'il doit faire à sa loi, qui a l'intention de faire. Si on a à prendre position, si les francophones ont à prendre position, ils sont tous bien de prendre position maintenant parce que ce qui va ressortir dans le rapport du comité parlementaire qui est attendu en octobre, là, ça va orienter ce qui s'en vient au niveau de la réforme de la loi sur les langues officielles là, qui aura lieu là, dans les prochains mois, les prochaines années.
Bien que les recommandations de la FFT restent à définir, la directrice générale, Linda Bossé, souligne d'emblée les enjeux liés à l'accès aux services de soins de santé en français.
Je pense qu'il y a toujours beaucoup de travail à faire au niveau de la santé, puis au niveau de s'assurer des services en français. Puis je pense qu'il y a du travail à faire que quand on dit qu'il y a des services. Il faut être très clair dans si quelqu'un demande un service que c'est peut-être pas dans l'immédiat, mais pourquoi. Puis on devrait être capable d'avoir des services dans l'immédiat, surtout dans la santé, quand c'est pour avoir travaillé longtemps dans ce domaine-là, c'est important d'être capable de parler dans sa langue, surtout quand on a quelque chose à partager qui est très personnel.
La tournée d'audience publique du comité de révision a été entamée le 7 juin à Inuvik. 5 intervenants ont répondu à l'invitation du comité, certains d'entre eux déplorant n'avoir été avertis que quelques jours avant l'événement. C'est l'accès à l'enseignement des 9 langues autochtones officielles des TNO qui aura été au centre de ce premier échange. Ancienne commissaire aux langues des territoires du Nord-Ouest, la résidente d'Inuvik, Sarah Jerome, a notamment souligné à grands traits l'absence inquiétante de relève pour assurer la transmission des langues autochtones aux nouvelles générations, alors que plusieurs enseignantes partent à la retraite. Comme la loi sur les langues officielles n'encadre pas le système d'éducation, certains suggèrent que le processus de révision actuel inclut également la loi sur l'éducation. C'est ce qu'a notamment évoqué le député de Yellowknife North, Ryland Johnson.
Under the charter, French language speakers have a right to French language schools. I believe we can create a similar right for indigenous languages in the Northwest Territories.
Celui-ci souligne que sous la Charte canadienne des droits et libertés, les francophones ont la possibilité d'envoyer leurs enfants à une école de langue française. Comme plusieurs autres intervenants, M. Johnson suggère donc de générer le même type de droit pour les autres communautés linguistiques du territoire. L'offre de services dans les langues autochtones du territoire, telle que prévue par la loi sur les langues officielles, serait également déficiente. C'est ce qu'a affirmé la commissaire aux langues des territoires du Nord-Ouest, Shannon Goldberg, devant le comité de révision qui entamait alors son évaluation de la loi en octobre 2020.
We cannot justify legislation that has the effect of treating indigenous official languages as second rate.
On ne peut garder une législation qui place les langues autochtones au second plan, a indiqué celle qui a occupé le poste de commissaire aux langues pendant une dizaine d'années, tout juste avant de prendre sa retraite. Les collectivités de Nahanibout, Tsegetchik, Fort McPherson, Inuvik et Toktoyaktuk recevront dès cette année l'aide du programme Nutrition Nord pour diminuer le coût de leurs aliments et d'autres produits essentiels. Denis Laure s'est penché sur le dossier et est avec nous pour nous en parler. Bonjour Denis.
Bonjour Thomas.
Denis, dans le cadre du programme Nutrition Nord, donc en bref, là, le gouvernement verse une subvention aux détaillants des collectivités qui n'ont pas de transport de surface 12 mois par année. Les détaillants doivent ensuite réduire le prix des aliments en conséquence pour que ça reste relativement abordable.
C'est exactement ça. Avec les 5 nouvelles communautés qui ont été admises au programme, ça fait maintenant 17 des 33 communautés des territoires du Nord-Ouest qui sont dans Nutrition Nord. Mais ces nouvelles-là, comme plusieurs autres au territoire du Nord-Ouest, la subvention est donnée seulement durant l'isolement saisonnier, donc durant le gel et l'embâcle. J'ai parlé avec le chef de Nahanibout, Steve Vital. C'est la localité la plus au sud des TNO à recevoir Nutrition Nord. Monsieur Vital m'a dit que la subvention serait applicable environ 2 mois par année. Il aurait aimé ça que ce soit à l'année, mais il était quand même content. À Nahanni, ils ont une petite épicerie, mais on m'a dit qu'ils faisaient souvent l'épicerie à Fort Nelson, au BC, à Hay River ou même à Yellowknife. Écoute, ça engendre quand même des coûts de transport importants pendant le reste de l'année, pas juste pendant le gel. Lors de la conférence de presse, le député des TNO, M. McLeod, a dit que ça démontrait l'engagement de son gouvernement à améliorer la qualité de la vie et le coût des produits de tous les jours dans les territoires du Nord-Ouest. Il faut quand même souligner que ça fait 7 ans qui se sont écoulés depuis qu'en 2014, le vérificateur général du Canada avait relevé des incohérences dans l'admissibilité des collectivités au programme. Donc, ça a pris tout ce temps-là pour que les Nahanni, Tsegetchik et les autres communautés soient admises.
On apprenait aussi que Fort Simpson, le conseil municipal de Fort Simpson, aimerait beaucoup être admis au programme Nutrition Nord. Il était question d'une pétition. Denis, on parle de rabais de combien environ là, sur les aliments, les savons, les médicaments en vente libre? Est-ce qu'on peut mettre des chiffres là-dessus?
Écoute, le gouvernement ne m'a pas fourni de chiffres, par exemple, pour le beurre d'arachide, pour le riz, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que les aliments se subdivisent en trois catégories qui sont plus, moyennement ou beaucoup subventionnés. Par exemple, le gouvernement subventionne plus les aliments congelés que les légumes frais et il subventionne encore plus les légumes frais que les légumes en conserve. Il y a un autre facteur aussi, c'est la distance. Plus une place est distante, plus est subventionné. Par exemple, pour la catégorie contribution forte, le gouvernement va donner 2,70 $ par kilo de nourriture à Nahanibout, alors que ça va être le double à Toktoyaktok. Mm-hmm. C'est problématique aussi un peu dans son rapport de 2014. Le vérificateur général avait reproché à Affaires autochtones et développement du Nord Canada de ne pas être tout à fait cohérent dans ses contributions. Et il avait reproché aussi, ça c'est important de le dire, il avait reproché de ne pas vérifier si les détaillants transféraient les subventions aux consommateurs. Mm-hmm. J'ai pas réussi à savoir si des mécanismes ont été mis en place pour faire ces vérifications-là depuis le temps. Par contre, j'ai parlé à l'ancien député néo-démocrate du territoire du Nord-Ouest, Dennis Bevington, qui était là jusqu'en 2015. M. Bevington s'était beaucoup investi en faveur d'une réforme de nutrition Nord. Il s'est réjoui que les communautés, les cinq collectivités dont on parle, aient dorénavant accès à des rabais, mais il s'est questionné à savoir si l'argent du gouvernement se rend véritablement dans les poches des consommateurs. On l'écoute.
Many of the companies will make sure that their stocks of food are at a high level before breakup and before freeze up. They raise the prices during those periods so that the subsidy will be an additional incentive to the stores that provide the food. If they're careful about how they bring food in during those periods and they can keep their costs down, then they will get an additional benefit from.
C'est Denis Bevington, ancien député néo-démocrate. Je cite, plusieurs compagnies vont s'assurer que leur inventaire de nourriture est soit à un haut niveau avant la débâcle et le gel, selon lui. Si elles font attention à la façon dont elles transportent la nourriture et qu'elles peuvent garder leur coût bas, elles feront des profits additionnels. Je suis sûr qu'elles doivent prendre cela en considération, indique M. Bevington, qui dit souhaiter que le gouvernement des TNO mette en place un mécanisme pour évaluer à quel point le programme est bénéfique aux résidents des collectivités. Denis Laure, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Au revoir, Thomas. Au revoir, tout le monde.
La fête nationale de l'Acadie sera célébrée ce dimanche à Yellowknife. C'est un événement qui est organisé par l'Association franco-culturelle de Yellowknife. Thomas Chabot est en studio avec nous pour nous en parler.
Alors oui, comme vous venez de le dire, on aura droit à une belle fête nationale de l'Acadie ce dimanche au parc Sombaké de Yellowknife. C'est pas 5800 km qui empêcheront les Acadiens de célébrer leur fête nationale et de faire entendre leur fierté certainement. Et au programme de l'événement, et justement, ça a lieu de 17h30 à 21h, il y aura un tintamarre et un repas traditionnel, le tout accompagné d'une programmation musicale aux couleurs acadiennes. Mais avant de vous donner les détails de l'événement de Yellowknife et de vous parler de ce qui sera au menu, je vous propose d'écouter Xavier Lord de Giroux, qui est présentement au Nouveau-Brunswick, proche de Moncton, dans la péninsule acadienne. Il nous explique ce que représente la fête nationale pour les Acadiens et ce qu'est un tintamarre.
Bien, la fête nationale, c'est le moment dans l'année où est-ce qu'on célèbre l'Acadie. Donc, on affirme haut et fort notre présence. C'est une tradition qui date de la fin des années 1800, lorsque les Acadiens ont vraiment consolidé leur nationalisme, si on veut. Et puis, ce qui est très propre à la fête nationale, c'est le tintamarre. Donc, c'est dans tous les villages, dans toutes les villes, des provinces maritimes, les gens vont déambuler dans les rues avec des casseroles pour faire le plus de bruit possible, pour affirmer notre présence, parce que souvent on est enterré sous l'anglais et puis on essaie de rappeler qu'on existe, on est là, puis on est fiers.
Justement, j'avais une question.
C'est Xavier Lord Giroux qui vient justement de retourner en Acadie, là, Xavier, qui était à Yellowknife il n'y a pas très longtemps. Alors, on peut s'attendre à entendre des casseroles du côté de Yellowknife ce dimanche, Thomas?
En effet, la fête de ce dimanche débutera avec le tintamarre. Élian Tajaillé invite d'ailleurs les participants à apporter des casseroles, des pots, des cuillères en bois, n'importe quoi pour faire un maximum de bruit et se faire entendre. Et c'est suite au tintamarre que le repas traditionnel sera servi et au menu fricot de poulet et ploy. Et là, Thomas, je vois votre question venir. Qu'est-ce que c'est qu'un fricot de poulet? Bien, c'est une grosse soupe à base de poulet, d'oignons, de céleri, de patates et de carottes. Mais là, l'ingrédient secret, l'ingrédient qui fait cette recette typiquement acadienne, c'est la sarriette d'été.
Une autre question pour vous, Thomas. C'est quoi ça?
La sarriette d'été, c'est une herbe spéciale qui pousse dans cette région-là. Très bon d'ailleurs, une odeur, disons, assez familière si elle est séchée. Et pour ce qui est des plats, eh bien, c'est des galettes de sarrasin. C'est typique de la région de Madawaska au Nouveau-Brunswick.
C'est donc une belle fête nationale là, qui va avoir lieu ce dimanche au parc Sambaqué de Yellowknife de 17h30 à 21h. On espère qu'il va faire beau ou pas trop mauvais. Il n'y a pas besoin de s'enregistrer pour l'événement. On a qu'à s'y présenter avec ses casseroles. Thomas Chabot, vous me parliez de musique acadienne. On va entendre la musique acadienne. Est-ce que vous auriez... on en discutait l'autre jour, là, quelques recommandations pour nous, là.
Des recommandations de musique acadienne, eh bien, vite de même. Je vous dirais trois artistes à écouter si on débute dans la musique acadienne qu'on n'y connaît pas vraiment. Bien sûr, Lisa Leblanc, un grand classique.
Bon,
le
oui.
Petit Béliveau, Radio. Ça, c'est un top 3, disons, assez de base pour commencer à connaître la musique acadienne. Et bien sûr, on ne peut pas passer à côté du grand et du célèbre Zachary Richard, qui est cadien. Donc, pas acadien, mais il est cadien, Cajun, de la Louisiane.
Bien entendu, les Hey Babies aussi, à ne pas oublier, qui font de l'excellente musique.
Les artistes acadiens, en général, sont très talentueux.
Oui, l'Acadie, c'est grand. Le Petit Béliveau, là, qui nous vient de Nouvelle-Écosse, là. Enfin, moi, je ne connaissais aucun artiste francophone de Nouvelle-Écosse. Et jusqu'à présent, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Thomas Chabot, écoute, on se retrouve au Parc Sambaqué ce dimanche. Merci beaucoup.
Bien entendu, je vous en prie.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Surtout, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission Territoire d'info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local pour Médias Ténois. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'info. Une émission de l'Initiative de journalisme local financée par le Fonds canadien de la radio communautaire.